qui n'a pas lu le mail et qui n'a pas eu la vision prophétique reçue dans la semaine de jeûne et prière? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas lu? Oui, il y a plusieurs personnes qui ne l'ont pas lu. Forcément, si vous n'avez pas d'adresse mail ou... Voilà, ça peut être gênant. Mais c'est après, on va rétablir les choses. En fait, les autres, vous pouvez partir. Je présente. Restez surtout, parce que c'est vraiment important. Je disais hier à Nadège, je ne vis que pour ça en ce moment. Je vis que pas vivre uniquement ces moments, mais je vis que par rapport à cette parole qui m'a été donnée de voir, de vivre, vraiment vivre dans l'exactitude. Et donc, d'abord, ce qui est important de savoir quand on reçoit une vision prophétique, c'est de savoir ce qu'on en fait. Moi, j'ai connu des personnes, je me souviens, j'étais tout jeune converti, le Seigneur m'a parlé et je suis sorti c'était dans un camp, on avait, à quelques semaines de conversion avec mon épouse, on était à Quimplage, pour les plus anciens, là, c'était à l'époque je crois que c'était les églises de coin qui avaient organisé un camp là-bas, à Quimplage, dans la Somme. Et je me souviens que André Wilkinson avait reçu une parole prophétique pour moi. J'avais pas trop compris, mais j'étais en foufelle, comme on dit dans le Nord. J'étais en foufelle parce que je suis sorti de là en courant, Dieu m'a parlé. Et j'étais vraiment content. Bon, vous pouvez avoir une bonne réaction comme ça. Et puis, j'ai déjà vu des gens qui disaient, où Dieu leur parlait clairement, et moi, connaissant la personne, j'ai dit, purée, le prophète est précis. Et puis, la personne disait, maintenant, c'est vrai, j'ai le compte à rebours. Il faut que je me discipline. La personne disait, c'est pas de Dieu. J'écoute pas cette parole. Elle jetait carrément la parole. Après, vous faites ce que vous voulez avec les paroles prophétiques. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Dieu envoie une parole, quand Dieu envoie sa parole en nous, elle nous pousse vers quelque chose. Et j'ai fait cette expérience extraordinaire, c'est que je l'ai vécu personnellement, cette vision que je vais vous partager tout à l'heure. Mais depuis, elle me pousse au derrière, si je puis dire. C'est comme si le Saint-Esprit avait ses mains sur mes fesses et il disait « Vas-y maintenant, Bruno, avance, vas-y, pousse, ne t'arrête pas maintenant. » Et ce que je veux dire, c'est que vous pouvez recevoir une parole, une vision et passer à côté de ce que Dieu veut. J'ai rencontré des personnes qui étaient très contentes, qui étaient comme Bruno au début de sa conversion, Dieu leur a parlé. 10 ans après, ils n'avaient pas fait un pas en avant. Parce qu'ils étaient juste contents, mais ils n'ont rien mis en pratique dans leur vie. Et le but de ce matin, c'est pas simplement de vous présenter une vision, parce que je sais que cette vision a touché des cœurs. J'étais bouleversé par les retours de certaines personnes. J'ai raconté un soir en rentrant du foot à un ami, je lui raconte la parole, il était bouleversé. Il en parle à sa femme bouleversée. Et je crois que Dieu veut faire rentrer cette parole en vous ce matin. Et regardez ce qu'il fait avec Abraham. L'Éternel dit à Abraham... Voilà une parole prophétique. Hein. Abraham, là, il lit pas l'écriture. Hein. Abraham, je sais pas ce qu'il était en train de faire. Peut-être qu'il était en train de s'occuper de ses affaires. Peut-être qu'il était dans la méditation. Mais l'Éternel dit à Abraham. Dieu est en train d'envoyer une parole à Abraham. Ah. Dieu est en train d'envoyer cette parole. Il envoie quelque chose de puissant, parce que cette parole, ça va changer le cours de son existence. Regardez ce qu'il est en train de dire. Éternel dit à Abraham, va-t'en. Littéralement, en hébreu, ça veut dire, va pour toi. Dieu est en train de lui dire, Abraham, je te parle, maintenant, entre dans ta destinée. Et la parole et la vision que je vais vous partager tout à l'heure, c'est cette parole-là que j'aimerais qu'elle rentre dans votre cœur. Entre dans ta destinée, Betsalel. Que ce jour soit marqué dans ton existence et qu'il te pousse vers une nouvelle destinée, vers une destinée plus glorieuse encore. Abraham était riche. Abraham avait du bétail. Abraham avait des serviteurs. Il avait 75 ans. C'était l'âge mûr. Il avait tout cet homme. Et Dieu, à un moment donné de sa vie, il lui dit, Abraham, c'est bien ce que t'as, mais je veux te faire entrer dans quelque chose de plus glorieux encore. Et quand Dieu envoie la parole, et quand Dieu envoie sa vision, et quand Dieu parle à son peuple, c'est toujours pour le faire transiter vers quelque chose d'autre. Pour nous pousser vers quelque chose d'autre que lui a préparé d'avance. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Extraordinaire. Il sait même pas où il va. Dieu lui dit, va-t'en. Moi, j'aurais répondu, ben, tu veux que je aille où? Et souvent, quand Dieu envoie une parole, on veut connaître tout. Et or, la parole, quand elle nous est envoyée par le Seigneur, elle demande toujours de notre part une dimension de foi et d'obéissance. Si Abraham avait attendu le lieu, il ne serait jamais parti. Par contre, la parole lui est donnée et il entre pleinement dans ce que Dieu lui a dit. Va-t'en, ok, je quitte mon pays. Mais quelle dimension de foi et d'obéissance avait cet homme? Quelle dimension de foi avait cet homme? Et j'ajoute, parce que derrière, il a emmené Lot, sa femme, etc. Vous savez, c'est son bétail, ses serviteurs, etc. Je ne sais pas combien ils étaient, je ne m'en souviens plus, peu importe. Mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'un homme reçoit une parole prophétique. Il la partage à l'ensemble du réseau dans lequel il a de l'influence. Et tous ceux qui sont autour de lui se lèvent. Alors, autant Abraham a une forte foi, une forte dimension d'obéissance, mais je peux vous dire, et j'ai pas peur de le dire, que le peuple qui l'entourait, que sa femme déjà, avait une forte dimension de foi. Parce que pour dire, ok, on se lève et on part avec toi, Abraham, ils n'avaient rien reçu. Ils n'avaient rien, ils n'étaient pas sur l'endroit où se trouvait Abraham. Comprenez ce que je veux dire? Et ce que Dieu demande lorsqu'il parle à un peuple, et vous le voyez dans toute l'histoire de la Bible, à chaque fois il parle à travers un homme, ou une femme, ou une personne, une circonstance, peu importe, il parle d'une manière prophétique. Et souvent, ce qui a empêché le peuple d'entrer, c'est parce qu'ils ont dit, tu as reçu, c'est bien, mais nous on n'a rien reçu. Or là, la parole qui est donnée, c'est une parole qui est adressée en réalité à un peuple. Regardez ce qu'il dit. Je ferai de toi une grande nation. Mais ça concerne ceux qui sont autour de lui à ce moment-là. Il rajoute, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Waouh. C'est ce que je disais. On peut entendre une parole. On peut entendre une vision. On peut entendre plein de choses. Et l'un des travers, si je puis dire, du mouvement charismatique, c'est qu'on veut entendre parler de Dieu, mais on ne fait pas grand-chose pour obéir à ce que Dieu nous demande. Or, l'église que Dieu est en train de préparer, c'est pas cette église qui entend et qui ne fait rien. Dieu est en train de préparer une église qui lui permettra d'entrer pleinement dans l'obéissance de ce qu'il dit. Et on va le voir, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a fait ici, ça n'a jamais été le fruit du hasard. Mais à chaque fois que Dieu a parlé, on ne savait pas où on allait, mais on a obéi à ce que Dieu nous demandait de faire. Et il dit, comme l'Éternel le lui avait dit, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré, l'Éternel apparut à Abraham. Et là, il dit, je te donnerai ce pays. Regardez la dimension de foi. À un moment donné, vous vous souvenez qu'une fois, j'avais prêché sur Noé, je dis, Noé était aligné avec Dieu. Et j'avais donné l'image d'un joueur de ballon, de baseball. Pour ceux qui connaissent un peu le baseball, ils font une sorte de mêlée, là, enfin, il y en a un qui reçoit le ballon, et puis il lance le ballon à un attaquant. Et le, pardon? C'est le football américain, j'ai dit quoi? Baseball, non, oh là là. Je vieillis. Et là, c'est au baseball, donc, pour les sportifs, de ceux qui s'y connaissent. Et là, que fait celui qui court? Vous pouvez comparer le Seigneur, le Saint-Esprit, à celui qui lance la balle. Il lance la balle. Ce n'est pas celui qui court qui donne la direction. D'accord? Il lance la balle. Et que fait celui qui doit recevoir la balle? Il aligne, il regarde la parole, il aligne ses pas, sa course, pour recevoir et traverser la ligne et marquer des points. Et là, c'est ce qu'a fait Abraham. Dieu lui a lancé une parole. Il a dit, ok, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu m'as fait une promesse, donc je m'y tiens. Il se met en route. Il commence à courir. Et que fait-il? Il dit, voilà, je m'aligne sur ta parole. Il arrive aux chênes de Morée. Et là, qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Autre révélation. Parce que souvent, on veut attendre de tout d'une révélation. On veut connaître tout d'une vision. On ne connaîtra jamais tout. Parce qu'on ne prophétise qu'en partie. Parce qu'on ne comprend qu'en partie. Et là, il se passe quelque chose. Il arrive aux chênes de Morée. Et là, il prend le temps d'écouter Dieu. Et Dieu lui parle et dit, c'est ici le pays que je te donne. Dieu ne lui aurait jamais parlé aux chênes de Morée pour lui dire « ce pays t'appartient » si au départ Abraham n'avait pas obéi. La parole prophétique donc nous pousse vers notre destinée. Et j'ai la conviction en tout cas qu'il y a une destinée pour chacun d'entre nous. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Tous autant que nous sommes, personne n'est mis de côté. Nous avons tous une destinée. Alors on a une destinée individuelle, mais on va voir après, on a une destinée collective, communautaire. Elle provoque en nous un voyage. La question que je vous pose aujourd'hui, et c'est vraiment important, est-ce que vous êtes en mouvement? Est-ce que lorsque Dieu vous a parlé, vous êtes mis en route? Ou est-ce que vous dites, j'attends encore? C'est vraiment important de se le poser, cette question. Est-ce que j'entre pleinement? Est-ce que je suis en mouvement actuellement? Si tu as la réponse, toi, à la question, on peut en parler. C'est que quelque part, il n'y a pas eu une mise en route dans ta vie. C'est que Dieu t'a parlé à un moment donné. Peut-être pas directement par un prophète, mais par sa parole, ou par une circonstance, ou par un message, une prédication, peu importe. Mais est-ce que ça t'a entraîné dans une action? Posez-vous la question. C'est vraiment important. Souvenez-vous, la semaine dernière, ça vous a été dit lors du message. Parce que même si je ne suis pas là, je suis membre du KGB. Je sais même tout ce qui se dit ici. J'écoute les messages dans la semaine. Et vous êtes, posez-vous la question, suis-je, quel type de personne suis-je sur la plage? Plusieurs fois, ça vous a été dit. Il y a une grosse part de foi et d'obéissance pour entrer dans notre destinée. La parole prophétique n'est pas tout. Elle doit engendrer une attitude d'écoute dans la prière face aux circonstances. Écoutez Dieu. Vous savez, cette vision que j'ai reçue, que je vais vous lire après, qu'on va lire ensemble, depuis que je l'ai eue, je n'arrête pas de dire au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Seigneur? Montre-moi Seigneur. Parce que la parole, Dieu attend une interaction avec nous quand il nous parle, quand il nous dit quelque chose. Il veut vraiment qu'on le cherche, qu'on aille creuser. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et parfois, Dieu ne donne pas tout pour voir quelle sera notre envie d'y aller. Et là, je gratte, je me lève la nuit, je me réveille. Cette nuit encore, ma femme m'a dit, t'as fait de l'insomnie. Oui, parce que je prie tout le temps, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas tout et je veux savoir ce que tu veux faire. La parole prophétique doit engendrer une attitude dans la prière. Et ce peuple, la première chose qu'on va devoir faire après la semaine de jeûne et de prière, et que Dieu a donné cette vision, c'est de recommencer à jeûner et prier. Parce qu'on doit vraiment entrer dans l'écoute par rapport à ce que Dieu nous dit sur le plan collectif. Il y a une similitude évidente. Et ça, bon, après, c'est pas théologique ce que je vous dis là. Hein. C'est moi qui le dis, d'accord ? Mais il y a une similitude évidente entre l'appel d'Abraham et la mission qui nous est confiée en Jésus, en Matthieu 28. Allez, faites des nations des disciples, allez. Soyez interactifs. Allez, faites des nations des disciples. Qu'est-ce qu'on fait après ? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et, c'est marqué dessus comme le port-salut. Hein. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Regardez la similitude. Allez, va ! Betsalel, entre dans ta destinée. Va faire des disciples. Le pays, va dans le pays que je te montrerai. Va prendre possession des choses que tu ne possèdes pas aujourd'hui pour que des âmes soient sauvées. Va, entre dans ta destinée, Betsalel. Baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigne-leur. Toutes les nations seront bénies en toi. Notre peuple en France n'a pas besoin que le coût de l'essence baisse. Et je ne fais pas de politique, ni de préférence de couleur, si vous voyez ce que je veux dire. Mais notre peuple a besoin d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a besoin de s'engager avec Dieu. Il a besoin de voir combien c'est en Christ qu'on reçoit les choses. J'ai reçu cette nuit l'image d'un camion à semi-remorque. Je comprends pas. Et puis, je vois, il me paraissait être lourd parce qu'il devait monter une montagne, enfin, une côte. Je dis, mais Seigneur, pour monter la côte, tu dois vider le contenu du camion, du semi-remorque. Il me dit, ok, vas-y. Donc, je vois tout monter. Je vois que le camion a toujours des difficultés. Parce que les gens, quand ils viennent dans les églises, ils veulent être allégés du poids de leurs circonstances. Par exemple, certains ont des problèmes avec leur belle-mère, elle les persécute, etc. Donc ils sont obligés, je l'ai fait, j'arrête après, une fois par prédication. Et d'autres ont des problèmes financiers, d'autres des problèmes relationnels, d'autres ont des problèmes, je sais pas, psychologiques, etc. Ils viennent dans l'église pour recevoir ça. Ok, j'entends, mais c'est pas assez. Parce que la remorque, elle était en un acier, en béton armé. Et le Saint-Esprit m'a dit, Bruno, les gens n'ont pas simplement d'être allégés de leurs problèmes. Ils ont besoin de changer de remorque. Ils ont besoin d'une nouvelle vie, d'être des nouvelles créatures. Et là, j'ai vu une remorque arriver, beaucoup plus allégée, en fibre de carbone. Je peux pas vous dire si c'était fait, mais beaucoup. Et là, le camion s'est mis à monter. Et les nations seront bénies en nous, mes frères et mes sœurs. Bénies en nous. Et voici, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Je bénirai ce qui te bénira, je maudirai. Et le Seigneur sera avec nous. Jamais, comme il a été avec Abraham, dans les pires difficulté de sa vie, Dieu était là. On continue d'avancer parce que il faut que je me discipline. Allez, on lit la prophétie ensemble. Alors que nous étions dans un groupe de maison afin de clôturer notre semaine de jeûne et prière, le Seigneur m'a permis de voir ce qu'il allait faire. J'ai été amené sur une plage et je regardais la mer et le Saint-Esprit me dit « Que vois-tu ?» Je répondis « Rien Seigneur si ce n'est la mer. » Et le Saint-Esprit ajouta « Ne vois-tu pas la vague qui arrive comme un tsunami ? Tu ne vois rien et pourtant cette vague existe bien et elle arrive bien. Tu ne la vois pas parce que tu regardes avec tes yeux, Bruno, et non avec les miens. » Alors, J'ai été transporté au-dessus de la mer pour rejoindre cette vague. Voici ce que j'ai vu. La vague n'était pas constituée d'eau, mais d'êtres humains. Et en y regardant de près, j'ai vu des personnes aux membres disloqués, fracturés. D'autres avaient la tête en sang parce qu'ils s'étaient entrechoqués. D'autres étaient inconscients et avaient besoin d'être ranimés. À cette vue, j'ai eu une grande compassion parce qu'elles souffraient et parce qu'elles avaient besoin de salut. Le Saint-Esprit me dit, j'ai ébranlé les cieux et ça a eu des répercussions sur la terre. Cette vague est le résultat de mon action. C'est pas l'homme qui fait ça. C'est pas nous qui sommes le fruit de ça. C'est Dieu qui a décidé. Et depuis le trône, il a dit, j'ébranle les cieux et la terre. Et il m'a dit, une grande vague arrive sur la France. C'est mon œuvre, car je veux sauver un grand nombre. Je fais une petite parenthèse. J'ai envoyé cette prophétie à Guy Georges. Vous connaissez Guy Georges, mon ami, qui est pasteur, parce que je veux soumettre, j'ai soumis cette parole à Martin, à Guy, enfin plusieurs. Et vous savez ce que Guy a fait? Le lendemain, il a rappelé, il a eu Marise au téléphone. Et le lendemain, il a dit ceci. J'ai reçu la prophétie de Bruno, et le jour même, j'ai reçu un coup de fil d'un pasteur qui s'appelle Sonny, qui vient des États-Unis, je crois. Et il a dit, il faut que je t'appelle Guy parce que j'ai reçu une vague pour chaque pays d'Europe. Wow. Alors je suis revenu sur la plage et voici ce que j'ai vu en deux séquences. La première représente l'Église qui se prépare et qui prend à cœur les âmes à sauver. Il y avait des personnes, des disciples, qui avaient les jambes dans l'eau, prêts à accueillir cette vague. Leur rôle était de ramener sur le rivage. Ils avaient un rôle très important car ils étaient forts. Ils avaient la capacité de prendre plusieurs personnes en même temps. Je pense à des leaders, je pense à des prédicateurs, je pense à des évangélistes, mais je pense aussi à ceux qui témoignent du Seigneur dans leur vie de tous les jours. Puis le sable, puis sur le sable, au bord de l'eau, il y avait de nombreuses personnes qui amenaient les sauvés vers des tentes. Ce sont les disciples qui se responsabilisent et qui les amènent vers des structures d'accueil, des groupes de maisons, églises. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Je ne sais pas ce que ça représente. Alors, on va prier pour ça. Mais je sais en tout cas que ça représentait à notre niveau, sans doute les petits groupes, les groupes de maisons, les pôles, ce que tu fais, Nathalie, avec les jeunes, etc., etc. Dans les tentes, groupes de maisons ou églises, il y avait du matériel. Entendez bien ceci. Des outils, mais aussi du personnel soignant. Il y avait des pasteurs dans ces structures. Pas un pasteur. Des pasteurs. Et chaque responsable de cette structure était comme un pasteur. Il avait un cœur de berger ou bergère. Ils avaient la capacité de soigner. Ils priaient pour les malades, de donner à boire. Ils priaient pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils donnaient à manger. Ils offraient la parole de Dieu. Ces tentes étaient parfaitement équipées et le personnel était parfaitement équipé, formé pour cette tâche. Enfin, j'ai vu derrière tout cela un château blanc dans lequel tous allaient. Tous ceux qui sortaient de ces structures allaient vers ce beau château blanc, grand château blanc. Ils étaient équipés, formés pour retourner sur la plage et grossir l'équipe de secouristes. Cette organisation était tellement parfaite. Je peux vous dire, ça ressemblait à un engrenage. Ça ressemblait à ma montre à gousset. L'engrenage intérieur était extraordinaire. Ça roulait tout seul. Tout le monde faisait ce qu'il avait à faire. Je me sentais même tout bête parce que je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? Chacun faisant ce qu'il avait à faire, c'était beau à voir. Cette organisation était parfaite et tous les naufragés étaient sauvés. Puis j'ai vu la seconde séquence beaucoup plus triste. Elle représente l'Église qui néglige et qui ne répond pas à son appel pour se préparer. Il y avait tellement peu de personnes dans l'eau, tellement peu de prédicateurs, tellement peu de disciples qui accompagnaient les naufragés vers les tentes, tellement peu de tentes. Et le Saint-Esprit m'a dit, il n'y en a pas assez, il en faut plus de groupes de maisons, plus d'églises. Quant aux tentes, certaines n'étaient pas prêtes. Il y avait des personnes, mais elles jouaient aux cartes à l'intérieur. Elle se distrayait, elle passait du temps pour elle-même. Le Saint-Esprit me fit prendre conscience qu'il représentait les groupes de maisons ou les églises qui font les choses pour eux. Ils n'ont même pas un cœur pour les gens qui arrivent sur la vague. Il faisait ces choses sans même penser aux naufragés. Enfin, et pire encore, j'ai vu des personnes sur la plage qui étaient allongées. Elles se passaient de la crème solaire sur le corps pour se faire bronzer. Ces personnes représentent les égoïstes qui ne pensent qu'à leur confort et à leur bien-être. Le résultat de tout cela est que le retour de la vague ramenait vers la mer un grand nombre de personnes. Je m'écris alors, « Oh Seigneur, mais quel gâchis !» Je sais, c'est peut-être pas beau comme mot, mais c'est ce que j'ai écrit hier au Seigneur. J'ai dit, « Mais quel gâchis, Seigneur ! Pourquoi ? Pourquoi ces gens retournent-ils à la mer ?» Alors l'Esprit entra en moi et j'ai ressenti la compassion. Mais pas la mienne, non. C'était celle du cœur du Père, celle du cœur d'un Père qui est en train de dire « Ils n'ont pas su se préparer. » C'était plus ma compassion, celle du Père. Et le Seigneur m'a dit « J'ai fait ma part, j'ai ébranlé les cieux. » Et le Seigneur m'a dit « Que vas-tu faire maintenant, Bruno ? Laisseras-tu cette perte se faire ou organiseras-tu ? Et est-ce que tu vas accélérer la réforme que tu as engagée ?» Oui, j'ai ébranlé le ciel, il s'est passé un tremblement de terre qui a secoué les structures de la terre. Le temps d'une grande moisson arrive, mais que fera mon peuple ? Si celui-ci attend de voir la vague arriver, entendez bien ceci, c'était une parole d'avertissement. Si on attend que la vague, qu'on voit la vague d'une manière, il sera trop tard. Parce qu'on ne sera pas prêt. Mais s'il se prépare dès maintenant, alors un grand nombre sera sauvé. Et j'ai répondu, j'ai prié. Amen. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux accélérer la réforme de mon cœur, de mes choix, de mes priorités. Et j'ai prié. Que ton peuple entende et obéisse. Et vous savez, la personne à qui j'ai partagé ça, il m'a dit, je vais prier pour que le peuple entende et obéisse. Maintenant, dans ce qu'on a remarqué, je vais essayer d'accélérer, dans ce que je lis là, moi je vois deux choses. Il y a deux choses, deux axes de travail. Un, il y a l'attitude individuel. Il y a une sorte d'inconscience dans ce que je vois sur la, vous savez, la seconde séquence où les gens pensent qu'à eux. Et je me dis, là, il y a un travail qui doit être fait au niveau de notre cœur. Et je vous comprends parce que vous n'étiez pas dans cette vision et de la partager, même si vous êtes sans doute touché émotionnellement ou spirituellement, je comprends que. Mais j'ai compris en tout cas qu'il y a quelque chose que Dieu voulait toucher dans nos cœurs. De nous dire d'arrêter de penser à nous. Et puis la deuxième chose, elle est de forme, ça on vous en parlera, on va se voir avec les prédicateurs, mais en tout cas moi j'insisterai dans les prochaines phrases sur qu'est-ce qui m'empêche d'être dans l'attitude que je vois, vous savez, de l'Église qui se prépare vraiment, qui est fonctionnelle. Et puis la deuxième, c'est une dimension qui est beaucoup plus communautaire. C'est de ça que je voudrais vous parler en quelques minutes. Maintenant. Et vous savez, ici, on s'appelle Betsalel et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le papa de Dominique, je crois, hein, qui avait dit « Cette église s'appellera Betsalel ». Le papa de Dominique, c'était le pasteur juste avant moi et juste avant, il y a eu le mari de Jacqueline, Jean-Pierre. Et cette église s'est appelée Betsalel. Et vous savez que vous pouvez retrouver l'histoire de Betsalel dans Exode 31 et Exode 35. Et Betsalel, c'était quelqu'un qui a été choisi par le Seigneur pour quelque chose qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Il avait le désir de connaître un modèle divin pour l'approbation. Pour cela, il s'est tenu à côté de Moïse. Moïse est monté sur la montagne, il est redescendu avec le modèle du tabernacle. Et juste avant, sur la montagne, Dieu dit, n'oublie pas, j'ai choisi Betsalel. Et quand tu vas redescendre, Moïse, tu vas expliquer tout à Betsalel. Et il va se tenir à côté de toi. Je l'ai rempli de capacités manuelles, mais je l'ai rempli de mon esprit. Je l'ai rempli de mon esprit pour accomplir toute forme, toutes sortes d'ouvrages. Et Betsalel, c'est ce que vous êtes. Je vous parle de vous. Je ne vous parle pas de l'église évangélique de Bondu. Je ne vous parle pas de l'église Betsalel. Je parle de Betsalel. L'homme qui s'est tenu à côté de Moïse. Tu es Betsalel. Et en tant que membre, tu es peut-être le petit ongle, le gros orteil, l'oreille, l'œil, peu importe. Mais tu es, ton ADN est Betsalel. Il avait le désir de connaître le modèle divin, donc je l'ai dit. Il avait dans le cœur d'achever dans les moindres détails, car il avait compris que Dieu habite dans l'exactitude et dans l'achèvement, dans la maturité. C'était extraordinaire parce que ce gars-là, il était les mains de Moïse, avec d'autres bien sûr, hein, mais il avait la capacité de faire les choses. Et Moïse lui a donné, je ne sais pas comment ils ont fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos, Moïse n'avait pas pris de photos sur, et pas de smartphone, il avait une montre à gousset à l'époque, et il n'avait pas pris de photos. Et Moïse a tout raconté à Betsalel. Il dit, voilà ce que j'ai vu, voilà comment sera l'autel des reins, voilà comment sera l'autel des parfums, voilà comment sera la table des pleins de propositions, voilà comment sera le tabernacle, voilà, voilà. Il lui explique tout, mais ça doit être très compliqué sans outils de communication. Et là, Betsalel se tient à côté et il lui dit, mais attends, il lui dit pas, hé Moïse, c'est pas comme ça que tu dois faire, garçon. Hein. Moi, je sais comment on fait, je suis un artisan. Dieu m'a rempli de l'esprit. Hein. Il lui dit, ok, tout ce que tu as vu sur la montagne, je le ferai dans les moindres détails. Quelle belle attitude de la part de Betsalel, vous trouvez pas? Mais c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Ensuite, son désir, il voulait que Dieu habite à travers ce qu'il opère, pas seulement dans un temps de visitation, mais il voulait absolument, absolument que Dieu habite en permanence. Et lorsque le tabernacle a été dressé, vous savez ce qui s'est passé? Qui sait? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, le tabernacle est dressé. Y a-t-il des érudits parmi nous? Oui, maître. La gloire de l'Éternel est venue. La gloire de Dieu est venue. Pourquoi? Parce qu'il s'est tenu à côté. Il a entendu la parole prophétique de Moïse. Moïse lui a expliqué, a dit, j'entre pleinement dans le moindre détail de ce que tu as reçu. Je te fais confiance, Moïse. Et j'entre vraiment dans cette dimension-là. Et je ferai tout ce que tu me diras de faire. Et à cause de ça, parce qu'il a été... Il a été précis dans les moindres détails. La gloire est descendue. L'Église, souvent, c'est rien, mon pépère. Il faut que ça se fasse. Dans les moindres détails. Et souvent, l'Église demande que la gloire de Dieu descende. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on veut? J'entends vos prières. Dans la semaine des jeûnes et des prières, j'ai entendu ma belle-fille me dire, mais je veux vivre des miracles. Je veux vivre des guérisons. Oui, je veux aussi. Mais on ne pourra pas vivre la gloire de Dieu si on n'achève pas les choses précisément comme Dieu nous demande de le faire. Le résultat de cette collaboration, la gloire est venue habiter. Je me dépêche. L'Éternel a mis autour de lui les ressources matérielles et humaines. En 2015, février 2015, il y a un prophète qui vient ici. Il ne nous connaissait pas. Il arrive, il voit Église Betsalel. Il dit, oh, ce nom est prophétique. Il vient apporter une parole prophétique qui est visible sur le site de l'Église, mais que quelqu'un ici avait déjà reçu avant qu'il ne donne cette parole prophétique. Cette personne, c'est Alice. Quelques années avant, elle disait déjà, voilà ce qui va se passer. Voilà. Elle donnait déjà des paroles prophétiquement. Elle venait me voir. Elle me secouait des fois. Pas secouer dans le bon sens du terme. Hein. Elle me remuait. Et cet homme arrive, il vient dire exactement les mêmes choses. Et regardez ce qu'il a dit. Cette église est appelée à travailler en équipe. Ici, ce n'est pas le lieu où les gens vivent le dimanche pour recevoir un message. C'est l'endroit du partage où tu trouves la vie, où chacun trouve ce pourquoi il a été créé. Alors qu'est-ce qu'on a fait il y a 3 ans après, hein? Après le temps de crise important que nous avons vécu, on a mis en place un parcours de découverte. Pas pour embêter le monde, mais on s'est dit, c'est quand même sympa. Quand tu mets des gens ensemble, il faut qu'on ait un même but, une même direction. Mais dans le parcours de découverte, il y a un des parcours dans le parcours, là c'est Betsa Guide maintenant, ou quelque chose comme ça, qui te permet de découvrir ce pourquoi tu as été appelé. Parce que ici, Dieu ne veut pas des gens qui viennent uniquement le dimanche matin, mais il veut des gens qui s'engagent, qui se préparent dans les tentes, qui se mettent sur la plage, qui cessent de se faire bronzer, si je puis dire. Et qu'ils entrent pleinement là-dedans. Ensuite, en novembre 2015, pour ceux qui n'étaient pas là, tant pis pour vous, mais il y en aura. Il y a eu un séminaire prophétique où des prophètes sont venus pendant tout le week-end. Et tous ceux qui étaient là, les prophètes ont prié pour eux, ils ont reçu des paroles prophétiques. Et des paroles claires ont été données. Je ne dis pas que tout était vrai, tout était bon, parce qu'on ne prophétise qu'en partie. Mais clairement, moi j'étais émerveillé. Je connaissais la vie des gens et je voyais comment Dieu parlait. Et grande était ma joie. Lorsque je voyais des frères et des sœurs dire « Oui, mais Dieu m'a parlé, mais je veux rentrer. » Après, j'étais un peu plus triste parce que certains ont rejeté ces paroles prophétiques. Le but étant, à travers ce séminaire, juste pas pour vous dire que « Ah ben, Dieu m'a parlé », qu'on fasse comme Bruno au début de sa conversion, qui ressort en courant et dans la joie. Mais c'était le but, c'est de dire « Voilà, Dieu a un projet pour ta vie. Ta destinée, elle est devant ses yeux. » Ensuite, on a constitué des pôles pour amener des personnes à travailler en équipe. Permettez-moi l'expression, mais c'était le foutoir. Des uns prenaient des décisions, ils étaient responsables d'une activité, sans tenir compte de... Et moi, j'étais le premier. Donc, j'ai dit, on va créer des pôles, on va donner des responsables à ces pôles pour qu'ils apprennent déjà à travailler avec leur équipe. On les a accompagnés du mieux qu'on pouvait. Et puis derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit aux responsables de pôle, on les réunissait, on les formait, on leur disait « Apprenez à travailler les uns avec les autres ». Enfin, j'espère que vous vous souvenez de ce qui a été fait, les responsables. On a formé des responsables, on a passé des soirées d'enseignement ici, avec les responsables, où la vision a été partagée, où Martin, qui sera là dimanche prochain, est venu nous enseigner. Afin qu'on apprenne à vraiment travailler ensemble. Et pourquoi on a formé les responsables? Parce que j'ai quelque chose que j'ai compris, moi. Si je veux une église forte, je dois être fort. Si je veux une famille forte, le père, la mère doivent être forts. Ils doivent être solides. Si je veux un pôle fort, le responsable doit être fort, solide. Mettez quelqu'un de fragile à la tête d'un groupe, le groupe ne fonctionnera pas correctement. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des petits groupes pour encourager le partage et la communion. Mais aussi, dans ces petits groupes, c'est quoi? C'est pas juste de passer du temps ensemble, c'est de prier les uns pour les autres, c'est de les former, c'est de partager, c'est de vivre une véritable communion. Les gens ont des problèmes. Eh bien, ils peuvent les partager, mais ça doit se terminer par des temps de prière. Et en réalité, les responsables des groupes de maison sont comme des vrais pasteurs. Moi, je les considère comme des pasteurs. Alors, bien sûr, ils n'ont pas le même niveau d'autorité, mais ils sont des couples pastoraux. Et leur rôle, c'est de prendre soin des brebis que le Seigneur leur donne, de s'occuper. Ensuite, alors ça, c'était aussi compliqué, mais forcément, toute réforme, elle enclenche quelque chose, parce que vous savez, souvent on est défini par rapport à notre passé. Ouais, mais dans le temps, on faisait pas comme ça. Hein? Et je suis le premier, moi, au boulot, quand on me dit, oh, tu devrais pas faire comme ça. Et oh, ça va. Hein? Moi, j'ai toujours fait comme ça. On a adapté nos cultes. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez la modification de ce qu'on a fait au niveau de l'accueil. Il y a des personnes qui s'occupent des gens lorsqu'elles arrivent. Parce qu'on considère que l'église, c'est pas juste le temps où tu viens religieusement prier, religieusement... et encore, des fois, quand tu arrives à lever les mains pour louer Dieu, prendre la scène ensemble, il m'énerve ce truc, ce compte à rebours. Non, mais je suis désolé, aujourd'hui j'étais un peu plus long que d'habitude, vous m'excuserez. Et après, écouter un message et rentrer chez soi. Le culte, il a été ici mis en place depuis un an et demi. Pourquoi? Parce qu'on considère que les personnes, lorsqu'elles arrivent ici, ce sont des personnes qui sont complètement déconnectées avec le religieux, dans le bon sens du terme, complètement déconnectées avec Dieu. Et donc, on s'est dit, ces personnes, elles doivent pouvoir vivre un moment agréable parmi nous. Un moment où elles vont recevoir une nourriture et une nourriture qu'elles pourront mettre en pratique dès le lundi matin. C'est-à-dire que j'ai demandé du jour en un, on ne prêche pas sur la prédestination. Ça ne sert à rien. Est-ce que c'est ça qui provoque le changement dans ta vie, que tu sois prédestiné ou pas? Moi, c'est pas mon problème. J'ai jamais voulu... Enfin si, j'ai fait des études bibliques, donc j'ai un avis... Mais je m'en fous, je vous le dirai jamais, mon avis là-dessus. Par contre, ce qui m'importe, c'est de savoir ce qui change dans la vie des gens. Et j'ai demandé à chaque prédicateur, chaque dimanche, de prêcher le message de la croix, de prêcher le salut en Jésus-Christ, de prêcher que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, notre vie est transformée. C'est ça qui change la vie des gens. Et ces cultes ont été transformés pour permettre une meilleure intégration des nouvelles personnes. Et puis on les fait un peu plus courts, sauf aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que derrière, moi je suis ravi de voir ça. Je vois des personnes, quand elles sont toutes neuves ici, elles arrivent, elles sont... Je suis sûr que, bon, je vais pas citer des personnes qui viennent depuis peu, mais c'est quand même sympa quand t'es accueilli par quelqu'un qui t'appelle par ton prénom. C'est quand même sympa quand t'es accueilli par un bon petit café. C'est quand même sympa que quelqu'un vienne te voir après et dit, comment t'as vécu cet instant? Pas très bien parce que j'ai des problèmes. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Est-ce que tu veux que je t'amène dans un groupe de maison? Est-ce que tu veux que je t'amène vers un pasteur ou un responsable? Ça fait du bien. Parce que l'église est une maison. L'église est un corps. L'église n'est pas un fonctionnement. L'église est un lieu de vie où la vie de Christ est transmise. Allez, j'accélère. Allez, après j'arrête là. Cette communauté doit être bâtie, prophétiquement encore, sur les valeurs du royaume de Dieu et non sur le formalisme religieux. Le royaume de Dieu existe, que les cœurs doivent être prêts à sortir du religieux pour capter le royaume. Et la question que nous nous posons ici, c'est pas comment on va faire les choses. Tout ce que je me pose, à chaque fois que quelqu'un me demande aujourd'hui quelque chose, j'aimerais mettre ça en place. Pourquoi tu le fais? Pourquoi elle le fait, cette ça? Est-ce que c'est pour accueillir des personnes? Est-ce que cette personne, en réalité, est en train de retrousser son pantalon, ses manches? Et est-ce qu'elle se place dans la mer quand elle désire que ce soit comme ça? Ou est-ce que lorsqu'elle veut mettre quelque chose en place, c'est pour taper le carton sous la tente, ou alors, permettez-moi l'expression, c'est le mot qu'on utilisait à mon travail, et, ou alors, c'est pour aller se faire bronzer sur la plage. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le formalisme religieux nous amène à un moment donné de nous endormir et à faire les choses pour nous-mêmes. Alors que... La valeur du royaume, le royaume de Dieu, allez, faites des nations des disciples, ça me pousse automatiquement à ne plus faire les choses pour moi, à abandonner un certain confort, un certain repère, une certaine sécurité pour faire les choses pour les gens. Et quand l'Église comprend ça, on voit les choses à commencer à bouger. Nous voulons que les cœurs captent un style de vie et non un fonctionnement dans une Église. Combien de fois j'ai entendu? Et surtout dans les générations présentes, des jeunes qui ont été meurtris parce qu'ils voyaient leurs parents aller à l'église. Et si moi, Joe, Tim, s'il nous regarde, parce qu'il nous regarde toutes les semaines, et Natu et tout, où mon Nat, il est parti par là. Ouais. Je vous demande pardon, parce que si un jour je vous ai donné l'impression que j'étais un autre homme à l'église qu'à la maison, c'était pas juste, parce que j'étais dans un formalisme religieux. Or, combien de jeunes, combien d'enfants ont été frappés par ça? Des enfants de chrétiens qui ont des difficultés d'entrer dans la foi. Pourquoi? Parce qu'on leur a montré un exemple qui était le formalisme religieux. On les a écœurés de l'Église. Et moi, je veux rétablir ça d'une manière prophétique. Je veux rétablir ça parce que le royaume de Dieu, c'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est un style de vie. Le royaume de Dieu, c'est un cœur transformé. Le royaume de Dieu, c'est un père qui aime ses enfants à la maison et à l'église. C'est une maman qui prend soin de ses enfants à la maison et à l'église. C'est la même chose. Il y a une cohésion entre ce que, une vraie relation entre l'église et mon style de vie à la maison. Et nous voulons recevoir l'approbation du ciel, rechercher la qualité et non celle de la terre, avoir du nombre. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui se posent la question du nombre. Le problème du nombre, ça va être réglé. La vague, vous allez voir, la vague qui arrive, on ne va pas savoir quoi faire avec. Et là, aujourd'hui, il y a des luttes de clochers, mais elles n'existeront plus. On sera obligé de dire, il y a trop de monde ici. Église de Roubaix, est-ce que tu veux bien prendre? Ils diront, ben non, nous on est déjà plein. On dira, ben au Concordia, est-ce que tu veux prendre? On sera obligé de créer des églises, mais il sera trop tard, on va les créer avant. On va rentrer avant, parce qu'on va préparer la maison pour ces gens-là. Nous ne mettons pas la priorité sur les dons, les manifestations, mais sur l'exactitude dans le cœur du croyant. Ce qui est exact dans mon cœur, c'est ce qui est important. Pas ce que je prophétise, pas sur ce que je prêche. Je peux vous dire, je ne sais pas si vous appréciez mes prédications, mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai des choses encore à changer dans ma vie. Mon cœur n'est pas toujours exact. Vendredi soir encore, j'ai passé plusieurs heures à me repentir devant le Seigneur sur des attitudes de cœur qui ne sont pas encore justes, sur des mots qui sortent de ma bouche qui ne sont pas encore justes. Et là, je termine. Voilà, la prochaine fois. Les qualités, maintenant, qui étaient en bête, Salel, il était précis, exact, imaginatif. Il était humble. Il se tenait à côté de Moïse pour écouter et capter le modèle qu'il avait vu. Il était humble. Il avait la capacité de bouger quand Dieu parlait. En ce sens, il fut un homme prophétique. Il a reçu la vision de Moïse. Il s'est efforcé de faire uniquement selon ce modèle. Il a abandonné toute forme de désir d'y mettre son grain de sel.